Europe 1 Culture Média.
9h-11h,
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver, si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début de notre émission. À suivre nos invités, les comédiens Ahmed Sylar. On parle de cette comédie très réussie, Jumeaux, mais pas trop. Et puis je salue Stéphanie Loire, bonjour Stéphanie.
Bonjour Philippe Vandel.
Jean Z, je vous salue également, bonjour.
Bonjour,
bonjour Jean, et bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Philippe.
Jean-Luc, tous les jours, vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et ce week-end, vous êtes intéressé au nouveau talk show de France 2.
Oui Philippe, je dois vous avouer une chose, j'aime la nouveauté. Quand je vais dans une grande surface, je suis du genre à acheter le gel douche senteur banane flambée juste parce qu'il y a marqué nouveau sur l'emballage. Donc là, nouveau talk show, je pouvais pas manquer ça. J'ai regardé Putain d'époque. Enfin, j'ai cru que ça s'appelait comme ça, vu le générique.
Putain d'époque.
Quelle époque j'aimerais revivre moi-même.
Putain d'époque.
Oh non, ça passe vite.
Elle aussi, quelle époque.
Putain d'époque.
Oui, parce qu'en fait, c'est « Quelle époque ?» le titre de l'émission. Léa Salamé dit s'être inspirée d'Orelsan pour le trouver. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a pris le morceau d'un autre rappeur pour le générique. Enfin, j'imagine. Donc, le show commence sur les chapeaux de roue et fait du bien dès le début. Franchement, quand j'ai vu rentrer Léa Salamé sur le plateau en tapant dans les mains de tout le public, j'ai compris que le Covid était fini. Non mais ça m'a rassuré parce que le même jour sur France Info, j'avais vu ça.
Dans cette officine, la 8e vague de l'épidémie est bien là.
Ouais, bah pas sur le plateau de Léa, hein. En même temps, ils sont stupides de rester dans cette officine s'il y a le Covid. Donc, beau plateau, bonne ambiance, dans la tradition des talk shows du samedi soir. Ça ressemble parfois à du Ruquier, mais avec les interviews thématiques d'Ardisson en plus. Et ça se voit pas du tout que les invités ont eu des questions avant.
Si Jean-Paul est un écrivain?
Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question.
Non, vous êtes censé être spontané, là.
Ah oui,
à l'américaine.
Il s'est grillé tout seul. Moi, je vous raconte ma vie. Mes enfants avaient regardé le jeu de Cyril Ferraud juste avant. Et ils n'avaient pas trop envie d'aller se coucher. Et je ne savais pas comment faire, parce que j'ai quand même zéro autorité. C'était au moment de l'interview de Yann Moix.
Il faudrait dire aux enfants, mais on n'a pas le droit de leur dire, que le bonheur n'existe pas.
Intuitivement, j'ai senti que Yann allait m'aider avec mes gamins. Donc j'ai laissé couler.
Est-ce que c'est normal de faire manger des excréments à son fils? Est-ce que c'est normal d'enfermer son fils dans la forêt pendant 4 heures à 3 heures du matin l'hiver? Est-ce que c'est normal de faire dormir son fils sur le balcon, nu, à 5 heures du matin au mois de novembre?
Voilà, ça m'a permis de dire à mes enfants, si vous n'allez pas vous coucher, je vous envoie un week-end dans la famille de Yann Moix. Hein, je ne les ai plus revus après. Puis 20 minuit, l'heure du crime. Mélenchon arrive. J'éteins la lumière, je sors les pop-corns, ça va saigner. Mon fils sort de sa chambre. « Papa, j'arrive pas à dormir, j'entends la voix de Mélenchon, j'ai peur. » Bon, c'est normal, il a que 18 ans. Bon. Jean-Luc Mélenchon, c'était évidemment le gros coup de cette première émission. Et Christophe de Chavannes n'a pas hésité à l'asticoter. Mais le Jean-Luc, faut pas trop le chercher.
En fait, c'est ça. Ça n'est jamais de votre faute.
C'est jamais de votre faute. C'est jamais
gros.
De sa faute.
Facile.
Ouais. Allez,
ouais. Elle était bonne, votre blague, ce matin? Elle a aimé, Léa Salamé?
Alors là, c'était horrible. Moi, devant ma télé, je me suis senti comme face à des gens qui parlent de la 8e saison de Game of Thrones, alors que perso, j'ai toujours pas commencé la première. Je savais pas du tout quoi ils parlaient. Et tout le monde avait l'air un peu perdu sur le plateau. Heureusement, Léa Salamé a eu un éclair.
J'ai fait une blague ce matin?
Je sais de quoi ils parlent. Sur Europe 1, ils m'ont demandé comment vous avez fait pour avoir Jean-Luc Mélenchon et vous avez dit... Et vous avez dit quoi?
Elle a couché.
Là, je me le suis pris en pleine tronche. J'ai découvert en même temps que Jean-Luc Mélenchon écoutait Culture Média et que des gens écoutaient Europe 1. Moi, je pensais qu'on faisait un atelier radio, que c'était pas diffusé tout ça. Sinon, j'aurais dit moins de bêtises depuis la rentrée. Et donc, cette blague n'a pas fait rire le leader de la France Insoumise.
Et elle, qu'est-ce qu'elle a répondu?
Qu'est-ce que j'ai dit, moi?
Elle a dit oui. Bah voilà. Et vous croyez pas que c'est un peu sexiste?
Ça, vu l'actualité de la NUPES, c'était gonflé d'aller sur le terrain sexiste. Mais bon, je peux pas tout vous passer, mais je sais juste qu'à un moment, on sait pas pourquoi, Jean-Luc Mélenchon a parlé de moi.
C'est un jeune homme extraordinairement brillant. Vous ne pouvez pas m'interdire de l'aimer.
Merci Jean-Luc, ça me touche. On se comprend entre JL. Quoi? Il écoute Culture Média. Allez, allez, prouvez-moi que c'est pas de moi qui parlait. Après, ils ont reçu l'escroc Marco Mouli, qui avait fait fortune avec la taxe carbone. Après 7 ans de prison, Léa va lui poser la bonne question.
S'il y a une nouvelle arnaque, si on vous propose un nouveau casse du siècle, vous y allez ou pas?
Bah t'as raison, hein, je pense que c'est un truc que t'as envie d'annoncer sur un plateau télé. Non, mais niveau discrétion, t'es au top. Bon, au final, l'émission a fait un carton, je regarderai la semaine prochaine.
Un carton, évidemment, pas évidemment, Louise Bernard l'a dit, 1 100 000 téléspectateurs, ce qui est énorme pour une émission qui se terminait à 1h40.
Exactement.
Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine, vous connaissez ses horaires. Stéphanie Loire, votre indispensable ce matin, ce sera quoi?
Je vais vous parler de l'héritier artistique et vocal de Leonard Cohen et Jeff Buckley, rien que ça.
Ah oui.
Et puis je vais vous donner une nouvelle qui va faire du bien au petit cœur de rocker que vous êtes, totalement orphelin depuis la fin d'Oasis.
Jean Z, c'est la même question. Votre programme aujourd'hui?
Pas de jeu vidéo, mais un documentaire Netflix qui retrace l'incroyable histoire de petits actionnaires qui ont fait trembler Wall Street.
Dans un instant, Ahmed Silla et Bertrand Huskla, ils incarnent ce film jumeaux, mais pas trop. Ce sont eux les deux jumeaux. Mais d'abord, musique avec un autre duo. Ça fait des points au Scrabble. Duo entre Icar et Zaz sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Bertrand Huskla.
Bonjour.
Vous êtes comédien, créateur, acteur principal du format Brut qui cartonne sur Canal, qui parodie ouvertement le média Brut. Mais Brut, vous nous direz si c'est fini après 160 numéros, parce qu'on a de l'actu avec vous justement, Ahmed Silla. Bonjour.
Bonjour Monsieur Vandel.
Comédien, humoriste, on vous avait découvert chez Ruquier dans Demande qu'à en rire, puis au cinéma, notamment dans L'Ascension, l'histoire de ce gamin de banlieue qui connaît rien à l'alpinisme, mais qui veut impressionner une fille et donc il dit qu'il va escalader l'Everest pour elle. Et puis dans Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi. Votre actualité, jumeaux mais pas trop, film d'Olivier Ducret et Wilfried Méhance. Ça sort mercredi. Qui sont ces deux jumeaux mais pas trop? Pourquoi pas trop?
Alors, ce sont deux jumeaux qui ont été séparés à la naissance et qui se retrouvent après 33 ans. L'un a été placé dans une autre famille. Et en se rencontrant l'un et l'autre, il faut se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément tiré le gros lot chacun.
Ah oui, il faut aussi dire quelque chose.
Ouais, j'ai oublié de dire.
Pour les gens qui sont à la radio, qui ne vous voient pas.
Ils ne sont pas de la même couleur de peau.
Ouais.
C'est le truc que j'oublie toujours dans le pitch.
Tu l'avais pas reprécisé, j'avais oublié.
C'est on a oublié. Ouais,
oui,
ouais.
Mais sauf que moi je l'avais noté.
C'est vrai. C'est merci de faire bien votre travail, Monsieur Vandel, parce que
voilà. Sauf que la différence de couleur de peau est loin d'être la seule chose qui les marque, qui les différencie. L'idée ne part pas de nulle part. Elle vient du producteur Jérôme Corcos, mais ça sort pas de son cerveau. Ça sort d'un article qu'il a lu.
C'est ça. C'est tiré d'un fait réel. Ça peut paraître très fou comme ça, très magique, mais vous pouvez avoir des jumeaux nés de couleurs différentes. Et il y a eu récemment, là, il y a quelques semaines, une jeune américaine qui a mis au monde des jumeaux, un noir et un blanc. C'est dingue comme les planètes s'alignent.
La probabilité, c'est une chance sur 1 million, ça peut paraître dingue. Je pense à tous les gens qui jouent au loto, gagner le gros lot, c'est une chance sur 19 millions. Donc, vous avez 19 fois plus de chances d'avoir deux jumeaux de couleurs différentes que de gagner au loto.
Voilà. Donc, faites l'amour.
Faites les deux.
On va entendre un extrait. Il faut quand même raconter ce qui s'est passé. Il faut aussi dire que c'est une fable et une satire sociale. Parce que vous ne faites pas le même boulot.
Oui.
Vous êtes quoi? Vous êtes un réparateur de... On ne sait pas trop ce que vous faites. C'est quoi votre job d'abord?
Moi, je suis un peu multitask. Comme on dit, on va dire que mon métier, c'est un peu d'aider les gens. Et bon, j'ai une formation quand même plomberie. Je répare des petites machines à laver, des petits frigos comme ça. Et je suis les petites mains, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'Ahmed, il a un personnage qui leur ressemble un peu, dans le sens où c'est quelqu'un qui est sympa, qui aide les gens.
Donc je croyais que tu allais dire parce que je répare les frigos.
Peut-être, je ne savais pas. Et dans ces cas-là, peut-être si tu peux passer chez moi cet après-midi. Mais moi, j'espère que mon personnage ne me ressemble pas trop. C'est une espèce de politicien assez carriériste, fils lui-même de politicien, énarque, parachuté dans la ville d'Angoulême pour les législatives et qui va essayer de remporter un siège à tout prix.
Il ne vous ressemble pas, mais il vous ressemble quand même, puisque la manière dont vous êtes fait connaître avec Brut, c'était quand vous jouiez un député.
Oui, alors ça, c'était ça qui était super. C'est que finalement, mon casting, moi, je l'ai passé pendant 4 ans à faire des vidéos Brut sur Internet. Les réalisateurs ont vu ça, ils se sont dit, ah tiens, il ferait un bon personnage de centre-droit, c'est ce qu'on imagine, hein, c'est conservateur. Vrai. Et donc, du coup, ouais, c'était super de pouvoir développer sur 1h40, moi, ce que je faisais normalement en 2 minutes, 2 minutes 30, de mettre un peu de chair et puis de reprendre mon vrai métier, qui est comédien, qui n'est pas forcément humoriste ou satiriste ou chroniqueur.
À tel point que sa maman.
Sa vraie maman.
Ouais, sa vraie maman.
Pas Isabelle Gélinas, maman, Madame Huskla.
Ouais, en tournée d'avant-première, qu'est-ce qu'elle t'a dit?
Son premier retour, c'est qu'elle m'a dit quand les lumières se sont rallumées, c'est tu me fais penser à Macron. Voilà. Mais comme on respecte le bulletin secret de la famille, je ne sais pas si c'est un compliment.
Il y a un peu de ça quand même.
Mais je me dis,
c'est un modèle.
Il y a une forme de crédibilité, j'espère en tout cas.
On va entendre un extrait. Un léger incident a mal tourné. Et vous êtes accusé, on ne sait pas trop s'il y a un meurtre, s'il y a un cambriolage. Enfin, c'est une fable. C'est pas non plus, on n'est pas dans Jean-Christophe Granger. Hein.
Oui. Non, non.
C'est
non,
pas non plus terriblement noir. Vous êtes tous les deux convoqués au commissariat car votre ADN est retrouvé sur les scènes de l'incident, de l'accident. Et le problème, c'est que vous avez toutes deux le même ADN.
Attendez, du coup ça veut dire quoi, marqueur génétique commun?
Ça veut dire que l'agresseur de M. Morand a le même ADN que vous, M. Beaulieu. Un peu comme si c'était votre frère jumeau. Ou bien vous-même. Bon, écoutez, on nage en plein délire, là.
Et cet homme, c'est qui?
L'autre? Bah oui, là, en termes de jumeaux, on est sur un sans faute. Hein.
Ne vous fiez pas aux apparences, l'ADN ne se trompe jamais. En tout cas, 19 mois de carrière, j'ai jamais vu ça.
Bon, moi, vous le tenez, votre suspect.
Alors, les réalisateurs disent qu'ils ont voulu éliminer la problématique raciale et plutôt que traiter une histoire de famille, notamment sur le plan social. Quelle différence, par exemple, un film où on pense qu'il y a un riche, un pauvre, échangé à la naissance, quelle différence avec La vie est un long fleuve tranquille ?
Je pense qu'il y a une forme de continuité, je dirais peut-être même de mise à jour. Effectivement, la question de la couleur de peau, elle n'est pas posée en termes... C'est pas racial, en fait. C'est juste le faux pitch du film, pitch caché, c'est comment faire pour que deux jumeaux qui s'ignorent se retrouvent dans la même pièce et continuent de s'ignorer. Il faut qu'ils soient de couleurs différentes, en fait. Et là, plutôt qu'un échange d'enfants, c'est peut-être plus une histoire sur l'amour, sur la fraternité. C'est une bromance avec des vrais frères.
Alors, ce qui est intéressant, c'est justement cette dimension sociale, parce que vous, Ahmed Silla, vous réparez des machines à laver, et ce candidat, jeune futur député de droite, il vous sort par les trous de nez. C'est une sorte de totem que vous avez aimé détester.
Oui.
Il a des doutes, votre personnage, sur sa filiation avec Grégoire Beaulieu, et donc vous rendez à son siège, au siège du candidat député pour avoir le cœur net, quand vous tombez sur son assistante Noémie.
Attendez, pause. Donc c'est vrai, je dis, Beaulieu, c'est mon frère.
Quoi, parce que vous le saviez pas?
Oh, le truc de fou. Bah si, mais j'étais pas sûr, quoi. Parce qu'en fait, en mélangeant mon café avec du lait, je me suis dit que ça pouvait être ni l'avocat, ni le flic. Du coup, il restait que le... Beaulieu, c'est mon frère. Je veux dire, la Charente au cœur, le...
Je comprends que vous êtes... Pardon, vous devez être très troublé, vous devez être un peu bouleversé même. Mais vous comprenez que ce serait pas bon pour Grégoire qu'il apprenne votre existence maintenant.
Ah bah oui, bien sûr, le pauvre.
Voilà.
Apprendre qu'on a un frère jumeau noir, ça peut faire tâche, quoi. Là, c'est tir, c'est gagnant, là.
Voilà,
c'est...
et puis vous, j'imagine que ça vous gêne pas qu'on attende un petit peu.
Et pour les deux salopards qui m'ont abandonné, on attend aussi ou...
Les deux salopards, c'est supposément les parents.
C'est exact, ça, c'est ça. C'est les parents.
Voilà.
Parce que moi, je pense que donc ses parents m'ont abandonné à la naissance parce que j'étais d'une couleur différente. Et ça se fait pas, en vrai.
Non, ça se fait pas.
Bah ouais, faut pas faire ça.
On n'abandonne pas les enfants, on n'abandonne pas Ahmed Silla, Bertrand Huskla, on parlait musique dans Culture Média et on a encore plein de questions. Il y a Stéphanie Loire et son dos magique qui viennent de s'installer sur ce fauteuil. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
On va parler musique dans Culture Média avec Stéphanie Loire. On est avec Ahmed Silla et Bertrand Huskla, jumeaux, mais pas trop. Film qui sort mercredi. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de chansons dans ce film. Ça a un sens. Exemple, Natacha Saint-Pierre, vous allez nous dire pourquoi cette chanson.
Sache qu'il y a dans mes chansons tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire. Mes blessures et mes faiblesses.
C'est ce que je n'avoue qu'à demi-mot.
Quelle interprétation.
Mais faut pas mes maladresses. Et de l'amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses.
Que tu me laisses.
Sache que si j'en fais toujours trop.
Tu vois les chanteurs paralysés qui cassent un peu la voix là.
Mais je vois trop bien.
Ils m'énervent tellement.
C'est vrai.
Mais ouais. Pour qu'un peu tu me restes.
Elle a du sens cette chanson, je peux pas tout raconter. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce moment dans le film?
On peut dire que c'est un moment très joyeux. Les réalisateurs en fait voulaient que les personnages aient chacun une petite honte musicale, quelque chose qu'ils auraient secrètement aimé durant leur adolescence et qui les rassemble. Ils ont choisi cette chanson de Natacha Saint-Pierre parce que je pense qu'on l'aime tous un peu cette chanson, secrètement. On n'ose pas dire quand même, c'est
c'était
carré,
les premières
hein.
Boum, ah ouais. Moi
surtout, tu aurais du mal à dire que tu l'aimes pas alors que tu connais les paroles par cœur.
Moi, oui, l'avantage c'est que ça fait partie des seuls textes du film que j'ai pas eu à apprendre. Donc ça c'était cool.
Stéphanie Loire, on parle de musique.
Oui, on a tous des titres honteux mais aujourd'hui dans nos playlists, mais en revanche ceux-là vous allez pouvoir communiquer dessus, ce ne sera pas du tout honteux.
Vous me donnez une idée, on fera une émission sur les titres honteux une autre fois dans Culture Média.
C'est, aujourd'hui, moi, j'ai une playlist remplie de ça.
C'est un musicien belge de 25 ans, artiste qui mêle le rock à des influences orientales.
Exactement, il s'appelle Tamino cet artiste. Est-ce que vous le connaissez?
Non.
Et non.
Tous les deux, non. Alors, il a écrit sa première chanson à l'âge de 14 ans à la suite d'une peine de cœur, donc voilà, certains pleurent sur leur canapé, d'autres font des chansons sublimes. Il y a 4 ans, il publie un tout premier album intitulé Amir, qui contenait l'envoûtant Indigo Night, titre sur lequel il s'offre une collaboration avec Colin Greenwood. Imaginez, premier album, éminent bassiste de Radiohead, dont il est fan depuis l'adolescence. Là, je vous propose d'ouvrir vos applications Shazam, parce que si vous avez prévu une soirée torride, c'est la BO idéale.
Sérieux ? Imagine girls around town assemble. Traveler someday come ask him where he came from, 'cause they've watched him washing his face near the pond. A curious boy and they wonder where he came from. He says I
même si on sent l'esprit Radiohead. Il a seulement 18 ans, c'est une immense maturité.
À cette époque-là, sur le premier album, en effet, il a 18 ans. Et d'ailleurs, on entend une filiation vocale assez évidente avec, on parle de similitude avec Jeff Buckley ou avec Leonard Cohen. On est dans cette veine artistique-là qui nous prend aux tripes. Pardon, excusez-moi, je m'emballe. Tamino revient avec un disque, encore une fois, imprégné de douceur.
Ne vous inquiétez pas, elle est toujours comme
un
ça.
Un nouvel album intitulé Sahar, que je prononce à mon avis mal. Fidèle à son style, une fois de plus, la mélancolie est toujours aussi dévorante. Écoutez. You claim to walk in love, though mercy is your foe. You've already dug a grave. Now you hope I misbehave. You say you know the cause. Si vous venez de vous faire quitter, sur le moment comme ça de
rupture, faut se mouiller la nuque.
Peut-être, voilà, peut-être éviter, pas tout de suite, attendre un peu.
Ouais. Voilà. Ça, c'est une belle chanson de Bouchon pour se calmer.
Ouais. Mais il chante un peu. Ah, c'est une super idée de liste. Les chansons de Bouchon.
Pour les chansons. Faut quand même définir Bouchon, hein, parce que, excusez-moi, mais
bah, il chante quand on
Bouchon en circulation.
Ouais, ouais, circulation.
Bien sûr. Pas d'oreille bouchée, mais il chante un petit peu comme Tom York de Radiohead.
Un peu.
Alors, aussi une info. Donc là, c'était Tamino et son album Sahar. Info qui concerne maintenant Liam Gallagher.
Oui, parce que même si ça fait 13 ans qu'il y a eu cette rupture marquante dans le rock, rappelez-vous ce 28 août 2009, au cours duquel Noël a fracassé une Gibson appartenant à son frère Liam suite à l'embrouille de trop qui signait la fin d'Oasis. Depuis, on est tous un peu des orphelins.
Il a surtout fracassé son frère. Ils sont battus dans les loges de rock en scène.
La légende dit qu'il aurait fracassé sur sa tête. D'autres disent que non. On ne sait pas. Je ne me suis pas mouillé. Voilà, je me suis mis sur la tranche.
Ça dépend. Il y a des points de suture ou pas? Sinon, il y a un indice. Hein.
En tout cas, il y en a dans mon cœur depuis cette séparation. Mais j'ai une info qui va vous donner du baume au cœur. Liam Gallagher, l'enfant terrible mais génie du rock, en a ras la casquette de la jouer en solitaire. Même si ça sonne très bien quand il s'exerce seul en solo. Par exemple, ici, en concert live sur la Tamise à Londres, sur Fade Away. La bonne nouvelle, pendant que Ahmed Silla est en train de faire de la air guitare, la bonne nouvelle, c'est que Liam vient de confirmer qu'il est en pourparlers avec John Squire, qui est John Squire, ex-guitariste du groupe des années 1990, Stone Roses. Et ils vont former un super groupe ensemble. Rendez-vous compte de l'association des talents. Ces deux rockers, ils avaient déjà fait un coup d'essai en avril dernier. John Squire avait rejoint Liam Gallagher sur scène pour interpréter un classique d'Oasis de 1995 intitulé Champagne Supernova. Écoutez comment ça sonnait dans la version originale d'Oasis, juste pour le kiff. C'est bien, Oasis.
C'était très très bien. Et ils vont pas revenir. Il faut qu'ils réparent cette guitare et ses plans futurs.
Oui, non, je crois que vraiment il faut qu'on abandonne l'idée. Ouais.
Merci beaucoup, Stéphanie Loire. Ils sont pas jumeaux, les Gallagher, justement. Non. C'est peut-être pour ça que ça a mal tourné.
C'est pour ça que ça a
terminé. Jumeaux, mais pas trop. Ahmed Silla, Bertrand Huskla, ils sont avec nous. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Ahmed Silla, Bertrand Huskla, jumeaux, mais pas trop, les deux personnages que vous incarnez, je le redis, si vous prenez l'émission en cours de route, c'est deux garçons, ils ont le même âge, ils sont nés le même jour, il y en a un qui est noir et un qui est blanc, et on découvre qu'ils ont le même ADN et qu'ils sont jumeaux. Et si vous pensez que c'est une idée folle de scénariste, pas du tout, ça peut exister. Donc, il y a une chance sur un million, mais ça existe et c'est déjà arrivé. Vous avez dit à Metzila dans la Charente Libre, on a bossé énormément pour éviter les clichés et les caricatures, pour ne pas aller à la facilité, c'est-à-dire... Qu'avez-vous évité? Après, je vais poser la même question à Bertrand Huskla.
Bah, ce qu'on a évité, c'est de faire un film facile, un enchaînement de vannes entre les noirs et les blancs, de mettre encore en opposition de différentes cultures, différentes couleurs. Moi, j'avais pas envie de ça. C'est pas le cinéma que j'ai envie de défendre. J'ai envie d'un cinéma qui rassemble, où on peut aller en famille, s'amuser et ressortir avec plus que ce qu'on est venu voir. Quoi.
Les réalisateurs disent une phrase que j'ai trouvée très intéressante. Ils disent on aurait pu faire le cliché du noir qui a réussi et le blanc qui est en bas de l'échelle, mais c'est une idée de scénariste. c'est pas la vraie vie. Et vous, Bertrand Huskla, vous dites, on sait où on va, mais on sait aussi vers quel mauvais film on peut aller. Ça aurait pu devenir quel mauvais film ?
Bah, c'est-à-dire que moi, l'espèce de départ de comédie populaire assumée, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait. Je pense qu'il faut effectivement, faut pas partir plus haut que les attentes du public, faut qu'on parte avec eux. Ce qui est important, c'est où est-ce qu'on finit. Mmh. Un mauvais film, ça aurait été effectivement de voir des comportements différents, des cultures différentes selon la couleur de peau. Ça s'est complètement évacué. À la limite, cette question éventuellement du racisme peut être posée parce que mon personnage étant un politique, il a un électorat qui peut être sensible à ces questions. Mais nous, en tant que personnage, c'est pas vraiment la question. Mmh. Donc, c'est à la fois traité, élégamment évacué, mais c'est pas du tout le film vers lequel on va.
Dans le film, Bertrand, vous êtes le moins sympathique des deux.
Merci.
On vous aime pas trop au début.
Voilà.
C'est votre premier rôle au cinéma. Vous savez pourquoi le réalisateur a pensé à vous ? Parce qu'il vous avait vu dans ce sketch de Brout.
Oui, ils m'ont vu dans ces sketchs où je faisais beaucoup de députés de tous les bords politiques d'ailleurs. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est rendre des personnages antipathiques empathiques. C'est-à-dire que moi, les hommes politiques sont des personnages que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la fonction pour la simple et bonne raison que je ne pourrais jamais l'exercer. Ça me paraît complètement impossible. Je sais qu'ils sont beaucoup détestés, qu'il y a des petites vagues d'antiparlementarisme, ce qui fait qu'on n'aime pas trop les politiques. C'est pour ça que moi, j'aime bien les défis de les camper et à la fin de donner un peu de chair à ça.
Vous n'êtes pas dans le tous pourri et la production du film a été montée autour d'Ahmed Silla. C'est autour de votre nom que le film s'est construit. Il y a aussi Junio, mais en premier, c'était votre nom. Et si vous aviez dit non, vous auriez pu récuser Bertrand Huskla. Pourquoi vous avez dit oui ? Pourquoi vous ne l'avez pas récusé ? Vous étiez pote à la base ou pas du tout ?
Non, on ne se connaissait pas. Enfin, on se connaissait. Moi, je connaissais son travail. J'étais fan de Brout et je regardais ses vidéos. Et j'ai pas dit non et j'ai pas récusé Bertrand parce que il a un talent monstrueux, c'est un vrai comédien et je suis qui moi pour dire qui a le droit d'avoir une carrière dans le cinéma. Je veux dire, on m'a donné ma chance pour faire l'Ascension.
Bien sûr. Vous auriez pu choisir un autre comédien.
Bien sûr.
Vous avez passé un casting ou pas?
Non, parce que là, il fait le mec humble, gentil et qui suis-je pour. T'aurais très bien pu.
Si vous aviez dit je ne veux pas de lui.
Clairement,
il y a des gens avec qui j'ai pas envie de tourner.
Voilà. Pardon, par exemple.
Non, mais très bien. Non, mais il m'aurait pu.
Non, faut
il
pas m'aurait pu le sujet.
Je peux pas dire ça ici, Philippe. Tu sais très bien. Ouais. Non, il y a des gens avec qui je. Oui, c'est clair que j'aurais. Mais Bertrand, je l'aimais bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait.
Vous avez fait un casting ou pas, Bertrand?
Non, vous êtes
passé comme ça direct.
Non, si j'avais passé le casting, je pense que je l'aurais pas eu. Comme
Parce
tous les castings
lu,
que j'ai passé de ma vie.
J'ai lu que vous avez raté tous les castings que vous aviez passés.
Ouais, ouais.
C'est vrai?
Ah ouais. Non, je ne réussis pas les castings. Moi, je suis pas du tout une bête de casting ni rien. Non, c'est vraiment, je n'y arrive pas. Mais je le prends comme une fierté aujourd'hui.
Et de qui vous êtes-vous inspiré pour camper votre personnage?
Alors, il y a deux inspirations. La première, il y avait des petits côtés Édouard Philippe. Parce qu'il y a des moments, quand Édouard Philippe, dans ce documentaire qu'il suit pendant 10 ans, je crois, jusqu'à l'accession au poste de Premier ministre, il y a des moments où il met un peu de rock, il met du ZZ Top, il se met à danser. Donc
ouais,
j'ai chopé.
Comment il s'appelle ? Ah oui, Édouard, mon pote de droite.
Exactement, voilà.
Ce documentaire tourné par un copain à lui.
Oui, c'est ça. Copain qui était avec lui au collège, au lycée.
Exactement.
Qui est lui devenu plutôt de gauche et Édouard Philippe plutôt de droite. Et
d'où l'expression mon pote de droite.
Exactement. Et l'autre personne aussi, il y avait un peu de Laurent Wauquiez quand il met un petit peu des vestes de chasse et des bottes pour montrer qu'il vient du terroir. On a une séquence qui est un peu un hommage. On a une séquence hommage à Laurent Wauquiez dans le film.
Il a fait ça ?
Oui, il l'a fait. Bien sûr, il l'a fait.
Ahmed Silla, vous vous souvenez de votre premier passage dans l'émission de Laurent Wauquiez ?
Oui.
On ne demande qu'en rire.
Ouais.
C'était pas sous votre nom.
C'était pas sous mon nom.
C'était l'émission de Laurent Wauquiez,
c'est ça ? C'était Ahmed Sarko.
Ahmed Sarko.
Ouais.
Pourquoi ?
Bah parce que j'avais des mauvaises idées des fois.
Ouais.
J'ai pas toujours eu de bonnes idées. Non, parce que j'étais le premier noir en France à imiter Nicolas Sarkozy et je me suis dit peut-être que ça fait bien de prendre un pseudo Sarko. Et Laurent Wauquiez à l'époque a eu la gentillesse et la bienveillance de me dire écoute, garde ton nom de famille, tu feras honneur à ton papa et c'est beaucoup mieux.
On est d'accord avec ça. Ahmed Silla, Bertrand Huskla, jumeaux, mais pas trop. On marque une courte pause. On parle d'un doc absolument stupéfiant. C'est Jean Z qui nous raconte ça. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
C'est pas gentil.
Je ne me lasse pas de ce son et Bertrand Huskla est en train de mimer
un DJ, un mec qui bouge des
DJ
potards.
Ouais. Mais un DJ un peu nul.
Un peu nul. Hein.
Vous êtes des gamers parce que vous avez reconnu le son tout de suite.
Exactement.
C'était triste.
Non, je sais pas. Ça a été composé pour le générique.
D'accord.
Pas mal. Ça annonce la venue de Jean Z. Bonjour Jean Z.
Bonjour.
Rebonjour. Vous nous parlez des jeux vidéo ici habituellement.
C'est vrai.
Mais là, vous nous parlez non pas d'un jeu vidéo, mais d'un documentaire qui retrace l'incroyable histoire de petits actionnaires qui ont fait trembler Wall Street.
Oui, le documentaire en trois parties s'appelle GameStop, les geeks défient Wall Street, à voir sur Netflix à partir de mercredi. GameStop, c'est une chaîne américaine, hein, c'est un peu le Micromania français américain. Ouais. On y vend essentiellement des jeux vidéo en boîte ou d'occasion. Et durant un peu moins de deux heures, cette mini-série très bien rythmée, imprégnée par la culture web, retrace avec précision une campagne spéculative hors du commun. Nous sommes en début 2020. L'action GameStop est au plus bas, à seulement 4 $. Il y a la concurrence des jeux en ligne, des jeux dématérialisés, on les achète voilà, plutôt en ligne. Et le confinement de la crise du Covid, bah, ça n'aide pas. Et des fonds spéculatifs prévoient une banqueroute pour la société et achètent à coups de millions de dollars des actions GameStop à la baisse. Ça s'appelle la vente à découvert.
Alors qu'est-ce que c'est ce procédé technique de la vente à découvert,
Jean ? Tout simplement, par exemple, Philippe, vous me prêtez une veste que vous ne mettez plus, elle me plaît, et veste que je m'empresse parce que j'aime beaucoup l'argent de revendre à Bertrand, qui l'aime beaucoup à 50 €. Oui. 2 ans plus tard, Philippe, vous me redemandez votre veste, c'est normal, c'est la vôtre. Je vais chez un fripier, j'achète la même veste à 30 €. Vous avez rien vu et moi j'ai gagné 20 €. C'est ça la vente à découvert.
Wow.
Mais
wow.
Vous avez le truc.
Attends,
mais...
on a appris. Vous avez laissé à Métis, là, j'ai bluffé.
Ouais, pourquoi je m'embête à faire des films, moi.
On va faire ça à Bertrand.
Ouais. Seul problème, c'est que si la veste est à 80 €, c'est pour le coup 30 € de ma poche et c'est ce qui va arriver dans l'affaire GameStop. Le point de départ, c'est Reddit. C'est un site très populaire pour créer des communautés. Par exemple, si Ahmed et Bertrand veulent créer une communauté jumeaux, mais pas trop, pour échanger avec d'autres jumeaux, mais pas trop, bah, c'est possible. Ça peut cartonner, ça peut faire du monde. Wall Street Bets, par exemple, c'est une communauté Reddit passionnée par la bourse. Elle compte plus d'un million de membres, dont le jeune Alvan Shaw qui va parier très tôt sur une hausse de l'action GameStop.
J'ai écrit un long post sur mes prédictions pour les mois à venir. Et je l'ai publié sur Wall Street Bets. Wall Street Bets n'était pas d'accord avec moi. Mais j'avais fait beaucoup de recherches pour confirmer ce que j'avançais. C'était aux autres de décider s'ils voulaient y croire ou pas.
Et ils vont finir par y croire. En août 2020, un gros investisseur soutient publiquement GameStop. L'action monte à 10 $, bien poussée par les internautes de Wall Street Bets, poussée aussi par Robinhood, une application smartphone qui permet d'acheter ou de vendre des actions en un seul coup de pouce, c'est-à-dire un like de TikTok. Voilà, bah vous achetez des actions.
Robinhood, je traduis, c'est Robin des Bois.
Exactement, et c'est là où l'affaire est encore plus grandiose. Début janvier 2021, l'action grimpe à 100 $. Les petits boursicoteurs achètent toujours. Les fonds spéculatifs tremblent. Elon Musk, fondateur de Tesla, va exploser la banque en tweetant un seul mot, GameStonk, un jeu de mots pour saluer le rebond historique. Plusieurs milliers de retweets plus tard, l'action atteint son plus haut niveau, 483 $, plus 2500% en un an. On est parti de 4 $.
Exactement, c'est dingue.
C'est dingue. Les geeks ont gagné. Alvan Shaw, qu'on a entendu là, eh bien, il a parié 30 000 dollars à la base. Il a empoché 8 millions de dollars.
Wow.
Un autre, lui, encore plus tôt, a gagné 37 millions de dollars. Mais il y a des perdants aussi dans le documentaire. Les fonds spéculatifs, eux, par contre, ils vont tout revendre. Perte 20 milliards de dollars.
On est en milliards.
C'est pas 20 millions, 20 milliards de dollars. La suite, je vous laisse la découvrir dans ce documentaire pas du tout manichéen. On entend beaucoup de boursicoteurs en famille, parfois. Il y a des familles qui ont bien misé, qui ont bien gagné de l'argent. On a des perdants, il y en a un à 500 000 euros, puis il vous monte la courbe. Donc il est parti de 500 000 et là, il est fini à 5,35 $. Là, ça fait un peu plus mal. Donc, super docu, ton léger, montage super inventif et une culture des réseaux sociaux, c'est ce qu'on apprend à la fin, qui depuis l'affaire GameStop est entrée officiellement dans les calculs des actions à Wall Street.
GameStop, je vais bien le dire, les geeks défient Wall Street, documentaire en 3 épisodes, disponible sur Netflix à partir de mercredi. Merci beaucoup Jean Z, ça vous a bluffé?
Bah ça m'a bluffé, mais la prochaine fois, est-ce qu'il peut nous prévenir quand l'action est à 4 $? Parce que là, il nous dit le truc, il est fini, on peut même pas mettre un petit billet là.
Ouais, c'était ma question. À quoi vous jouez si vous êtes des gamers? Vous jouez à des jeux ou pas?
Moi, j'ai un peu honte de le dire parce que j'avais annoncé il y a 3-4 mois que j'étais dessus, j'ai toujours pas fini, c'est Elden Ring, mais j'arrive sur la fin.
200
là.
Heures, moi, Elden Ring.
Vous
200
l'avez
heures. Ah, mais j'ai les platinés. Ben, ouais, je les désossé.
C'est incroyable.
Moi, je suis plus jeu de société là.
C'est
alors, en ce moment, on est.
Oui,
non. On est sur Shotun Totten. C'est extraordinaire. Et Gang of Four.
Oui. On joue à ça en tournée avec Amen.
Il faut jouer en famille, c'est bon. Il peut y avoir
des morts.
Ouais, ou au moins des engueulades. Mais c'est très très bien. Franchement, c'est très
bien. Comment ça s'est passé? Vous avez fait une grande tournée dans toute la France pour aller présenter le film. Quel retour avez-vous eu?
C'était complètement fou en fait. Enfin, c'est un peu nul de dire ça parce que je vais dire que des choses positives et avec des feux verts de partout. Mais c'était incroyable. Déjà, on a tourné il y a un an avec Ahmed et puis passé 2 mois de tournée ensemble, apprendre à se connaître et rencontrer les gens, rencontrer le film en fait. Quel est vraiment ce film? Un film n'est rien avant qu'il ne soit projeté. C'était fou parce qu'on a en plus plein de jumeaux qui sont venus, plein de gens qui étaient
c'est
surpris,
pas vrai.
Émus, ouais.
Attendez, est-ce qu'il y avait des jumeaux qui se ressemblaient?
On les a pas trouvés.
On les a pas trouvés.
Non mais et en tournée d'avant-première, la phrase qui est revenue le plus souvent et qui nous a fait énormément plaisir, c'est on s'attendait pas à ça.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens sont arrivés des fois avec un a priori, des petits préjugés sur bon, ça va être une comédie un peu lambda sur et ils se... Et puis le moment émotion les a
Vous voulez que je vous dise, enfin.
Vous voulez que je vous dise,
ouais.
Nous aussi dans l'équipe,
ah,
et ça,
ça fait plaisir.
On s'attendait pas à ça. Oh, jumeaux, clair. Mais pas trop. Ahmed Silla, Bertrand Huskla, c'est la dernière ligne droite de Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Je n'ai pas encore cité tout le monde. Jumeaux, mais pas trop. Au film d'Olivier Ducret avec Wilfried Méhance, avec beaucoup de gros noms dans les guests. Gérard Jugnot, Isabelle Gélinas, Jean-Luc Bidault. Ça sort mercredi. C'est avec Bertrand Huskla et Ahmed Silla qui sont avec nous. C'est très bavard comme film, mais ce n'est pas une critique. Il y a aussi une utilisation marquée de la chanson française. Exemple en voiture. Ahmed Silla, je vais sauter des étapes.
Oui.
Mais le député, donc votre jumeau, vous savez que c'est votre jumeau, mais lui ne le sait pas, vous fait engager comme chauffeur. Et vous avez envie de lui faire passer un petit message alors qu'il est avec son staff en chanson.
Marchez noir, il n'y a plus d'espoir.
Il n'y a rien, quoi.
Bon, tu
viens de parler parce que là, en fait, toi, tu peux pas travailler. Oui.
Vas-y, je te dis.
Où t'es, papa, où t'es ?
Oh, Anthony !
Où t'es, papa,
Anthony !
Où t'es, papa,
Anthony !
Anthony !
On peut couper le truc, là ?
Vous aimez pas chanter, monsieur Beaulieu ?
Si, si, j'aime beaucoup ça, mais il se trouve que j'ai un direct à préparer, moi, ce soir.
Ok, comme vous voulez. Après, moi, si je chante pas, je suis pas détendu. Et quand je suis pas détendu, j'ai tendance à trop parler.
Voilà, j'explique le moment, il a tendance à parler parce que votre assistante, Bertrand Huskla, voudrait que vous ne sachiez pas que vous êtes le jumeau du personnage joué par Ahmed Silla. Ahmed Silla, j'en aurais pas parlé si le sujet du film n'était pas celui-ci. Vos parents sont originaires du Sénégal, vous êtes arrivé en France en 87.
Moi, je suis né ici.
Oui, et vous dites, je n'ai jamais vécu le racisme de manière frontale comme d'autres générations.
Ouais, alors après, des fois, moi, je m'exprime pas hyper, hyper bien.
Alors que voulez-vous dire ?
Je vais repréciser. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que peut-être c'est parce que je suis quelqu'un d'un peu naïf et que quand je subis du racisme, je le vois pas comme tel. Mais on m'a jamais dit, par exemple, sale noire. Rentre chez toi, tout ça et tout. Ça a toujours été plus insidieux. Après, en fait, je l'ai découvert quand j'étais au collège. Quand j'étais au collège, j'ai eu ma première insulte raciste, vraiment. Je peux pas la redire ici parce qu'elle est vraiment atroce, mais ça a été ma première insulte et après j'en ai plus eu. J'étais le seul noir moi de mon collège et mon lycée. J'ai fait toute ma scolarité dans des écoles privées catholiques avec la haute bourgeoisie nantaise et ça s'est bien passé en fait. Ensuite après j'ai découvert le théâtre, je suis venu à Paris, j'ai commencé la scène ouverte et je suis devenu connu. Et quand vous devenez connu, bah, mine de rien, votre couleur de peau, elle passe un peu en second plan. Vous n'êtes plus Ahmed Silla le noir, vous êtes Ahmed Silla le comédien, le connu, tout ça. Donc, en fait, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire que moi, peut-être qu'il y a des gens qui peut-être n'aiment pas les Noirs ou les Arabes, ils sont venus voir mes spectacles. Je ne le sais pas.
Et dans le milieu du cinéma, parce que vous avez participé au film Tout Simplement
Noir. Ouais. Dans le milieu du cinéma, non. J'en ai jamais souffert.
Ni ressenti.
Franchement, non.
Vos projets, c'est quoi ?
Mes projets, c'est de continuer à kiffer. Hein. Franchement, ouais. Là, en fait, j'ai décidé un truc dans ma carrière. Là, j'arrive à 32 ans. Je commence à être un peu plus adulte. En tout cas, j'espère. En fait, je me suis interdit de bosser avec des gens avec qui j'ai pas envie. Avec des cons, tout ça.
Il y en a beaucoup ?
Ouais, il y a des producteurs avec qui j'ai plus envie de bosser.
Quand vous dites « j'ai plus envie de bosser »,
ouais.
Vous avez fait une dizaine de films.
Ouais.
Et je vais pas vous mettre dans l'embarras, mais on peut retrouver la liste.
Ouais, on peut. Franchement, on peut, ouais. Mais il y a... En fait, là, on est dans une époque où ça va tellement vite. J'ai perdu des proches, tout ça et tout. J'ai que envie de kiffer la vie, moi. J'ai pas envie de me faire chier à bosser avec des gens qui sont cons, quoi.
Ça va être dur d'enchaîner avec ça, parce que Bertrand Huskla, vous avez dit cette phrase qui m'a vraiment surpris, parce que c'est un film très bienveillant, jumeau, mais pas trop, sans être du tout béni, oui, ni niais, pas du tout, du tout. Mais vous dites, cette hype, c'est vous qui le dites, de la bienveillance partout, sur Internet particulièrement, m'agace. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est pas un sentiment noble, la bienveillance ?
Ça dépend de quelle bienveillance on parle, parce qu'effectivement, ce côté où il faut absolument... respecter le je vais pas aller dans le cliché du on peut plus rien dire, mais ça pourrait m'agacer. Par contre, moi je peux bien aimer cette bienveillance de combat, alors celle qui dit qu'en fait la bienveillance c'est d'être agressif, il y avait quelqu'un qui déconne et lui faire savoir, ça peut m'intéresser. Donc peut-être que je m'exprime un peu mal aussi, mais c'est vrai que ce mot de bienveillance
est polysémique. C'est moi, non, mais... je m'exprime mal. Toi t'exprimes bien.
Vous avez fait remarquer que Pierre Desproges n'aurait pas résisté longtemps à l'ère Twitter.
Ouais, bien sûr, mais on peut le dire même de ceux d'avant, et Desproges disait peut-être ça à d'autres personnes avant. Mais
Non, mais c'est... quand on dit les deux figures tutélaires dont on parle toujours, c'est Coluche et Desproges.
Ouais, bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant chez les deux, en tout cas, c'est qu'ils se sont toujours mis du point de vue de la personne qui parlait. Même quand eux faisaient des caricatures de Coluche, ça fait des caricatures d'immigrés. Quand ils le faisaient du point de vue à chaque fois du personnage, ils défendaient le personnage.
Le sketch du CRS arabe.
Ouais, voilà. Donc ce genre de truc. Donc en fait, ça, c'est une règle. Je pense qu'il ne changera pas. Après, les modes d'expression, les nouveaux médias font de nouvelles règles. Et c'est notre travail d'humoriste de les apprendre et de jouer avec, parce qu'on ne va pas non plus se considérer au-dessus des lois, qu'elles soient d'ailleurs juridique ou moral.
Bertrand Huskla, vous avez mis Brout en pause ou pas du tout? Vous dites j'arrête au bout de 160 épisodes, mais dans une autre interview, vous dites on pourrait en faire ensemble, donc j'ai rien compris.
C'est-à-dire que, non, j'ai besoin de dire que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, et dans ma tête ça s'arrête. Le format court de 2 minutes, 2 minutes 30, l'habit hebdomadaire qui m'a pris 4 ans de ma vie, ça je crois que j'ai plus les ressources pour le faire. Après, j'ai très envie de développer l'idée, la marque, le sentiment. Je vais même aller plus loin. Je pense que tout ce que j'écrirai, ce sera toujours un peu Brout. Je sais pas, peut-être qu'un jour, hein, j'en sais rien. Moi, j'aurai le talent, parce que je pense que je sais pas le faire, moi, écrire une comédie populaire avec un pitch fort. Je sais faire que mes trucs un peu cyniques, ironiques. J'ai très envie de développer une série et un film. Les deux sont en projet. J'espère que je vais y arriver. Mais le petit format court, j'ai vraiment envie de dire stop.
Mais sur les 160 numéros de Brout, il n'y en a pas un dont vous dites tiens, cette idée, ce point de départ, ça peut passer la rampe de l'heure et demie?
Si, il y en a plusieurs, mais plutôt commencer par l'heure et demie directement, qui serait plus un film aller choral avec une thématique globale. Je ne vais pas prendre une idée, un pitch fort. Pour ces pitch forts, je préfère en faire des épisodes de 20 minutes. Là, oui, il y a des trucs que je vais réutiliser, des thématiques que je vais reprendre, et surtout pouvoir traiter des thématiques que je ne pouvais pas traiter en 2 minutes, qui sont un peu trop touchy pour 2 minutes. Là, si je peux utiliser le pouvoir de la fiction, 20 minutes cette fois-ci, pour parler de ça, je vais le faire. Ouais.
Ahmed Silla, on va vous voir dans quel film?
On va me voir.
On sait
dans...
déjà qu'ils sont pas réalisés par des cons.
Ouais,
c'est déjà la
c'est
première
ça.
Info.
Ah, mais ça, je vous assure. Et vraiment, je souhaite à tout le monde, vraiment, faites le ménage dans vos vies. Faites le ménage dans vos vies. Quand vous voyez, quand il y a des cons, dites non, stop, quoi. On n'est pas obligé. En fait, des fois, on se sent obligé. C'est comme des fois, on nous pose une question, on se sent obligé de répondre. Des fois, non, on n'a pas envie. C'est tout. Là, par exemple, j'ai
ça.
Envie de répondre.
C'est un peu le principe de l'interview en même temps, non?
Non, je vais répondre. Alors, on va voir dans des films très différents et je suis très content. Il y a notamment Les Femmes du Square de Julien Rambaldi qui va arriver. Il y a Un petit frère de Léonore Serra, il y a un film d'auteur. Il y a La guerre des Lulus aussi de Yann Samuel. Des films très différents, ouais. Il y a Classico aussi qui arrive sur Amazon.
Ah, dis donc, qu'est-ce qui arrive pas? Et le retour sur scène, ça m'a impressionné.
Et le retour sur scène.
C'est 2023. Fin 23 de 24.
Ouais, début 24.
Mais c'est pour les JO de Paris, ça.
Bah, en même temps, ce sera en même temps, je pense. On va faire d'une pierre deux coups. Et parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps d'écrire un nouveau spectacle. Parce que, comme on l'évoquait un petit peu avant, on est dans une ère où l'humour, il a vachement évolué. Tout le monde a une voix, tout le monde défend un peu son bout de gras, et j'ai jamais eu l'habitude de faire de l'humour pour heurter des gens ou des communautés, donc je vais essayer d'être le plus universel possible.
Dernière toute petite question à Bertrand Huskla, vous avez vraiment raté le concours d'entrée de Sciences Po 7 fois de suite,
oui.
Ou c'est de la légende?
Alors Sciences Po Paris 3 fois et 2 fois Lille et 2 fois Bordeaux, donc c'est les Sciences Po, mais c'est impossible de rater 7 fois Sciences Po Paris.
Non,
j'ai fait le max.
Mais les gars, maintenant ils vous connaissent.
Ils me connaissent, j'avais mon petit rond de serviette, tous les examinateurs ils me connaissaient, monsieur Huskla, petite noisette sans sucre et tout, posez-vous là, et puis à l'an prochain pour le prochain concours.
Ça pourrait être aussi un bon film. Merci beaucoup Bertrand Huskla, Ahmed Silla.
Merci.
Je rappelle donc Jumeaux mais pas trop, signé Olivier Ducret, Wilfried Méhance, avec dans les guests Gérard Jugnot, Isabelle Gélinas et Jean-Luc Bideau. Je ne vous dis que ça. Ça sort mercredi. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Beaucoup.
Merci à tous.
Merci beaucoup.
Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Culture Média. Nous sommes avec le directeur de l'info et des sports chez Altis Média, c'est Hervé Bérou. On va parler de la rentrée de la chaîne BFM TV. Et puis la comédienne Catherine Fraud pour un spectacle qu'elle joue aux côtés de Michel Faux. Encore une histoire d'enfant. Ça s'appelle Lorsque l'enfant paraît. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. Le programme du jour, mademoiselle, d'abord bonjour.
Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe. Alors aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Ça va vous intéresser, messieurs. Vous êtes à fond dans les réseaux sociaux.
Je connais les réseaux sociaux.
Bah, je sais bien. Alors justement, est-ce que ces réseaux sociaux nous rendent davantage sociables ou au contraire, est-ce qu'ils nous enferment dans un monde virtuel très très dangereux? On va en parler avec nos spécialistes.
Et dans le quart d'heure des bienfaiteurs, on va essayer de vous aider à mieux dormir, mais à mieux dormir de façon écolo, tout en protégeant. On dort et on protège la planète en même temps.
Ça aussi.
Ouais, c'est aussi. Même quand on dort,
c'est
on peut.
Incroyable,
mais voilà.
Il y a des gens qui dorment avec un diesel allumé. C'est pas bien, les gars. C'est pas bien. Allez, à demain, 9h. Bonne journée sur Europe 1.